Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Au Congo, dans un camp de réfugiés, Caritas a sauvé plus de 900 enfants, mais elle risque de devoir bientôt cesser ses activités, faute de moyens. En Syrie, un nouveau fléau, la faim, s'abat sur la population. Et au Liban, le désespoir s'installe parmi les réfugiés syriens. Ils comptent sur l'aide humanitaire qui est maintenant menacée. La pauvreté et le dénuement seront au cœur de ce magazine, à l'occasion de la journée des Nations Unies pour l'alimentation. Au sommaire également, le compte-rendu de l'audience générale, l'Église est apostolique, a expliqué le pape François, car elle est envoyée pour porter l'évangile au monde entier. Au Niger, plus de 2500 enfants de moins de 5 ans sont morts des suites de la malnutrition sur les 8 premiers mois de l'année. En République démocratique du Congo, la malnutrition et ses effets dramatiques touchent 6 enfants sur 10. Dans le monde, 842 millions de personnes sont toujours en déficit alimentaire, en partie en raison du gaspillage de nourriture. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, ce mercredi 16 octobre, le directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a indiqué que des progrès avaient été réalisés dans 62 pays. Reste que 2 milliards de personnes souffrent toujours de dénutrition et de carence et que l'approvisionnement alimentaire est lourdement pénalisé par le gaspillage. Un tiers de la production alimentaire mondiale est perdue chaque année. Dans son message pour cette journée de l'alimentation, le pape François dénonce la culture du rebut dont le gâchis des aliments est l'un des symptômes. Il regrette l'individualisme et le repli sur soi qui, paradoxalement, semble croître dans notre monde globalisé. Le pontife demande une éducation à la solidarité et un changement concret des habitudes de vie. Le compte-rendu d'Antonino Gallofaro.
Le gaspillage est un paradoxe. Pour le pape, la tendance à l'individualisme, à la fermeture sur soi semble croître. Et pourtant, l'époque globalisée dans laquelle nous vivons nous permet de connaître les situations de besoin. Ce paradoxe, cet individualisme, cette fermeture sur soi porte à une indifférence envers ceux qui souffrent de malnutrition, dénonce François, comme si c'était un fait inéluctable. Il ne faut pas s'y habituer, ne pas s'habituer à ce que le pape avait déjà qualifié à de nombreuses reprises de culture du rebut. C'est dans cette culture que se trouve le gâchis des aliments, poursuit François. Cette culture s'inscrit dans un contexte plus large que le pape a déjà condamné, la mondialisation de l'indifférence. Elle nous habitue lentement à la souffrance de l'autre, comme si c'était normal. Le souverain pontife dénonce cette situation avec l'aide de données de la FAO. Environ un tiers de la production alimentaire mondiale est indisponible en raison de pertes et de gaspillage toujours plus étendus. Comment y remédier? Le pape François demande une éducation à la solidarité, un changement concret des habitudes de vie, le maintien des personnes sur la terre et le soutien de la famille qui est un lieu de la solidarité.
Cette année, la FAO a consacré sa réflexion sur la mise en place de systèmes alimentaires durables dont dépend la santé des populations. Cela pourrait paraître une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas, selon Charlotte Dufour, conseillère en sécurité alimentaire et nutrition au sein de la FAO.
On voit une situation, bien qu'il y a des progrès dans la lutte contre la faim, en même temps l'obésité, le surpoids, les maladies chroniques augmentent de façon alarmante dans les pays en voie de développement et développés. Après, du côté des systèmes alimentaires et notamment des agroécosystèmes, on voit une détérioration des ressources naturelles, une perte en biodiversité, des situations de surpêche. Donc, en effet, ça paraît évident, mais malheureusement, ça ne l'est pas du tout. Et on a des problèmes du côté de la santé et de la pérennité de nos systèmes alimentaires qu'il faut absolument prendre en main.
Mais justement, un système alimentaire sain, c'est quoi ?
Un système alimentaire qui prend en compte les besoins de l'environnement, donc qui ne soit pas dans une surexploitation, qui ne soit pas dans une utilisation excessive de pesticides qui peuvent ensuite contaminer les sources d'eau et la terre, qui ne mine pas les nutriments dans le sol, qui préserve l'équilibre entre faune et flore, et qui, en conséquence aussi, permet à l'homme de se nourrir correctement. Et ça implique de travailler à toutes les étapes du système alimentaire, donc à la fois sur le type de semences et d'intrants que l'on va utiliser, jusqu'à donc la production, mais aussi la transformation, le stockage, le transport, jusqu'à la distribution et notre assiette.
Donc concrètement, tout ce qui touche à l'environnement, comme la pollution par exemple, a une incidence directe sur notre alimentation et notre santé du coup.
Oui, à deux niveaux. Il y a des effets sur la santé par l'utilisation d'intrants chimiques qui peuvent, s'ils ne sont pas évacués avant que ça arrive dans notre assiette, peuvent avoir un impact sur notre santé. Mais aussi, un élément très important dans beaucoup de pays, surtout à revenus faibles, c'est des problèmes de diversité alimentaire. Et on a beaucoup de politiques agricoles qui sont orientées vers la maximisation de la production de céréales, parfois au prix d'une perte en biodiversité. Or, c'est dans la diversité des aliments que l'on va trouver l'ensemble des nutriments, des protéines, des minéraux, des vitamines dont nous avons besoin pour être en bonne santé. Donc si on n'a pas une diversité dans le champ, dans le système de production et de distribution, on manquera de diversité dans l'assiette. Et ça, c'est un problème pour beaucoup de familles dans les bidonvilles où il y a des grandes populations pauvres.
Charlotte Dufour, conseillère en sécurité alimentaire et nutrition au sein de la FAO, interrogée par Antonino Gallofaro. Et en Syrie, les dignitaires musulmans ont autorisé la population à manger du chien et du chat, des viandes pourtant considérées comme impropres à la consommation humaine par l'islam. La décision a été prise le 15 octobre, jour de l'Aïd el-Kébir, car il faut bien lutter contre la famine. Car si un compromis a été trouvé pour les armes chimiques en Syrie, la situation humanitaire, elle, est loin de s'améliorer. Les prix des denrées alimentaires ont flambé, parfois multipliés par 10 ou 20. Selon la BBC, dans certaines zones, les convois humanitaires n'ont pas le droit de passer, alors que des inspecteurs chargés de démanteler l'arsenal d'armes chimiques syriens circulent librement. Comment le monde peut-il dormir l'estomac plein alors que des personnes ont faim, écrivent les dignitaires musulmans syriens. Attendez-vous que nous mangions la chair de nos martyrs et de nos morts? Quant à lui, le Liban absorbe depuis des mois des dizaines de milliers de réfugiés fuyant le conflit en Syrie. Mais cette terre d'accueil promet souvent un destin bien triste à ces réfugiés qui vivent pour la plupart dans des conditions précaires. L'accès aux soins devient de plus en plus compliqué. Le Liban lui-même est instable en raison de la crise syrienne. Les violences à Tripoli, seconde ville du pays, en témoignent. Jusqu'à présent, le soutien combiné des communautés d'accueil, du gouvernement et des organisations humanitaires a évité une crise sanitaire. Mais pour Fadia Kiwan, directrice de l'Institut des sciences politiques à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, le gouvernement libanais n'a pas su instaurer une vraie politique efficace d'accueil.
Le Liban a adopté une politique qui s'est retournée contre le pays, qui est celle des bras ouverts à l'égard des déplacés. Et il avait refusé initialement qu'il y ait des camps pour qu'ils soient placés de côté à part et à la frontière. Le pays n'a pas voulu installer encore des camps parce qu'il y a dans la mémoire collective le traumatisme des camps palestiniens. Et donc le Liban a décidé d'avoir les bras ouverts pour accueillir les personnes qui étaient déplacées en raison des combats, mais sans rien prévoir pour les accueillir au sens strict du terme. Et au bout de 2 ans, on s'est retrouvé avec 1 300 000, les uns disent il y a plus qu'un million et demi de personnes, et ça va continuer. Si la crise syrienne continue, il va continuer à affluer des gens au Liban, parce qu'ils fuient les combats, et naturellement ce sont les seules frontières qui sont ouvertes, parce que la Turquie a limité le déplacement vers la Turquie. Et la Jordanie a fait pareil. Et la Turquie et la Jordanie ont prévu des camps pour placer les personnes qui arrivent dans des camps. Ils savent où ils sont sous leur contrôle. Les aides viennent à travers le gouvernement jordanien et turc et elles sont déployées dans les camps et ils savent à qui ils ont affaire.
Pourquoi le Liban a des difficultés à organiser cette aide ?
Le Liban n'a jamais pu organiser une aide officiellement parce qu'ils sont dispersés dans tout le pays. Et leurs effectifs sont trop nombreux pour le pays, parce que le Liban compte 4 millions de personnes sur 10 000 km². Ce n'est pas la superficie de la Turquie ni celle de la Jordanie. Et donc il a effectivement un problème réel en ce moment. C'est un problème d'abord de sécurité, parce que les gens sont dispersés un peu partout. Comme il y a naturellement dans toutes les populations qui sont déplacées dans les temps de guerre, il y a des gens qui sont aisés, et qui achètent, qui louent et qui s'installent. Mais il y a le plus grand nombre est formé de gens qui sont dans la plus grande précarité. Alors ces gens-là, ils s'installent n'importe où, ils sont dans l'exclusion, il y a un taux de criminalité qui augmente, il y a des tensions, il y a du banditisme qui augmente. Moi je suis très réservée à imputée à la présence des déplacés syriens, le banditisme et la criminalité. Mais avec 1 million de personnes qui sont dans la précarité, il faut imaginer que, évidemment, que le taux de criminalité et de banditisme va augmenter.
Comment vivent ces réfugiés au jour le jour, ces réfugiés syriens au Liban ?
Nous arrivons maintenant à l'hiver, il y a des écoles. Nos écoles ne peuvent pas accueillir un si grand nombre de personnes. On n'a pas le personnel, on n'a pas les équipements, on n'a pas les locaux. Et ils sont laissés dans la nature alors que les intempéries en hiver peuvent créer encore plus de problèmes. Il y a donc le problème de sécurité, le problème humanitaire et le problème politique naturellement parce que le Liban n'a pas réussi à se préserver de la crise syrienne pour ne pas que ses retombées ne se réfléchissent dans le pays. Tout le monde sait que les Libanais sont partagés à l'égard du problème syrien. Et le fait d'être partagés a fait que ils seront partagés aussi dans toutes les politiques que le gouvernement devra adopter à l'égard des déplacés syriens et à l'égard de la crise syrienne. Donc nous sommes enfoncés dans la division, un petit peu à cause de la crise syrienne aussi.
Quel regard vous portez sur la femme, bien sûr, au Liban, mais sur la femme dans le monde arabe aujourd'hui et dans un monde arabe qui est en train de se transformer également ?
J'ai le plaisir de vous dire que la femme est très active dans les mouvements de changement dans tous les pays arabes. C'est un des acteurs, un des leviers du changement. C'est tout à fait naturel parce que la femme est affectée par d'abord les coutumes qui sont réactionnaires, mais elles étaient affectées aussi par l'absence de liberté. Elles étaient aussi interpellées par la montée en puissance des formations islamistes qui ont menacé directement la liberté des femmes et leur statut d'égalité avec les hommes. Et on a vu ça dans plusieurs pays arabes. Une fois qu'un régime islamiste prenait le pouvoir, il essayait de bricoler dans la Constitution un concept qui remplace celui de l'égalité. Sinon, il devient réticent à l'égard du code vestimentaire des femmes. Il y a eu des pratiques qui étaient comme des avertissements. Les femmes se sont mobilisées. Ce que moi je peux dire au sein d'un monde occidental, l'Europe est au cœur de l'Occident, c'est qu'il faut nous libérer des stéréotypes sur le monde arabe. Les peuples arabes sont en train ils sont en mouvement, ils bougent. Ils bougent et il y a dans beaucoup de milieux des agendas qui sont tout à fait familiers dans notre terminologie à nous, qui sommes acquis à la culture et à la culture occidentale et à la vie occidentale. Ils ont les mêmes valeurs que nous. C'est pas tout le monde, mais il y a des mouvements importants dans l'une ou l'autre des sociétés arabes qui sont en mouvement aujourd'hui. Il y a d'importants mouvements qui ont un agenda politique et culturel et social qui est puisé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit pour les uns et les autres de réclamer les libertés, de réclamer l'égalité, de réclamer la participation, de réclamer la reddition des gouvernements. Je suis quelque peu apaisée de voir que les femmes sont très actives dans ces mouvements.
Fadia Kiwan, directrice de l'Institut des sciences politiques à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, interrogée lors de son récent passage à Rome par Thomas Chabol. Et ce jeudi 17 octobre, on célébrera la 27e journée mondiale du refus de la misère. Cette journée se déroule sous les auspices du mouvement ATD Carmonde, fondé par le père Joseph Wrzesinski. Elle encourage le partage fraternelle avec les exclus, les sans-abri et toutes les personnes en grande précarité. Depuis 1992, l'ONU s'associe à cette journée. Cette année, elle sera centrée sur le combat contre la discrimination pour origine sociale. J'ajoute que selon une étude, l'Afrique compte 55 milliardaires, soit plus que l'Amérique latine, alors qu'en parallèle, le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter sur le continent. Le premier pays de la liste, c'est le Nigeria, qui compte pas moins de 20 milliardaires. Le nombre de personnes vivant dans des conditions d'extrême pauvreté en Afrique a plus que doublé ces 30 dernières années, passant de 205 à 414 millions. Une mère courage a participé ce mercredi à l'audience générale au Vatican. Laura Grassi est une Italienne âgée de 31 ans. Atteinte d'une grave maladie, elle a voulu, malgré l'avis contraire des médecins, porter à terme sa grossesse. La sclérose latérale amyotrophique est une maladie qui provoque une dégénérescence progressive des neurones moteurs et avec le temps, la paralysie des muscles. Laura Grassi est malade depuis 2 ans, mais sa foi est profonde et elle a le soutien de nombreuses personnes, dont les volontaires de l'Unitalsi, qui accompagne les malades à Lourdes. Elle rêvait de pouvoir rencontrer le pape Bergoglio avec son mari et sa petite fille de 6 mois pour qu'il lui donne la force d'aller de l'avant. Ce mercredi, son rêve a pu se réaliser. Laura Grassi espère maintenant que son histoire pourra servir d'exemple et redonner l'espoir à ceux qui doivent affronter de dures batailles, car la vie doit toujours avoir le dessus. Et c'est à l'apostolicité de l'Église que le pape François a consacré sa catéchèse ce mercredi à l'audience générale. Quelques 70 000 personnes étaient rassemblées sur la place Saint-Pierre dans la liesse habituelle. Le souverain pontife leur a expliqué ce que l'on entend par Église apostolique. L'Église est apostolique à cause de son lien profond avec les apôtres, ce petit groupe de 12 hommes choisis, appelés et envoyés par Jésus. Le compte-rendu de Jean-Baptiste Cocagne.
L'Église est fondée sur la prédication des apôtres et sur l'autorité que Jésus leur a donnée. La prédication et l'annonce de l'Évangile sont donc les piliers de son action. Une fois encore, ce mercredi, le pape François a mis en garde les chrétiens contre la tentation de s'enfermer dans leur paroisse, de devenir des chrétiens de sacristie, qui se disent chrétiens mais qui vivent comme des païens. Une Église qui s'enferme sur elle-même et sur son passé, qui se limite à observer quelques petites règles et coutumes, trahit son identité.
Siamo missionari.
Les chrétiens doivent être missionnaires par la parole, mais aussi et surtout par le témoignage de vie authentique. Le pape explique aussi que l'Église est apostolique parce qu'elle garde et transmet l'Écriture sainte, la doctrine, les sacrements et le ministère des pasteurs. Malgré les difficultés, les problèmes, les médisances qui émaillent son histoire, l'Église est la gardienne de la parole du Christ et de l'authenticité de la foi chrétienne. Le pape invite donc les chrétiens à ne pas avoir peur ni honte d'annoncer l'Évangile et à découvrir toute la beauté et la responsabilité de former l'Église apostolique.
Et en ce 16 octobre, 35e anniversaire de l'élection de Jean-Paul II, le pape François a invité les fidèles à invoquer son intercession céleste. Et toujours ce mercredi, l'un des rares survivants de la rafle dans le ghetto de Rome en 1943 a pu rencontrer le pape François au Vatican. Sur les 1022 juifs romains capturés, seule une quinzaine ont survécu à cette déportation massive par l'armée allemande. Enzo Camerino est âgé de 84 ans. Déporté à Auschwitz en Pologne, puis au camp de Buchenwald en Allemagne, il est revenu à Rome en juin 1945. Ce fut une rencontre émouvante, a confié Marco Impagliazzo, président de la communauté de santé Gidio, à l'origine de l'événement. Marco Impagliazzo, dont les propos sont rapportés par l'agence APIC. En 1943, de nombreuses institutions religieuses, des monastères et les basiliques papales avaient ouvert leurs portes pour cacher des juifs. Le 11 octobre dernier, recevant des représentants de la communauté juive de Rome, le souverain pontife avait estimé que la communauté chrétienne de la ville avait su à l'époque tendre la main à ses frères en difficulté, interprétant ainsi la volonté du pape Pie XII. La nouvelle a eu un vaste écho dans la presse francophone. Le Notre Père va être légèrement modifié dans sa version française, en usage depuis 1966 dans l'Église catholique. Monseigneur Bernard Potvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France, l'a confirmé mardi. On ne dira plus « ne nous soumets pas à la tentation », mais « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Une nouvelle édition de la Bible liturgique, tenant compte de cette correction, sera disponible en France le 22 novembre. La nouvelle traduction a été validée par Rome. Le changement sera progressivement introduit dans les autres livres officiels, a expliqué Mgr Potvin. Rien ne change actuellement pour la prière du Notre Père, y compris à la messe. Un changement pourra intervenir dans quelques années, lorsqu'entrera en vigueur la nouvelle traduction du Missel romain, qui est encore en chantier. L'actuelle version française du Notre Père, adoptée après un compromis passé en 1966, après la fin du Concile Vatican II avec les orthodoxes et les protestants, était restée sujette à débat. Il y a 17 ans, explique Mgr Potvin, les conférences épiscopales francophones ont demandé de mettre en chantier une traduction intégrale de la Bible à usage liturgique. La traduction post-conciliaire méritait une révision. L'intérêt journalistique pour le Notre Père, écrit encore le porte-parole des évêques de France, est positivement révélateur du sens populaire de la principale prière des chrétiens, mais la pendule des rédactions est un peu en avance sur celle des églises. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas de nous retrouver sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.